Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cet été, nous vous proposons les meilleurs moments d'Accent d'Europe. C'est aux côtés du Liban, le pays qui accueille de loin le plus de réfugiés syriens chassés par la guerre dans leur pays. La Turquie compte déjà 2,7 millions de Syriens sur son sol et c'est dans le sud du pays qu'on compte près de 26 camps où sont logés 10% de ces réfugiés. Mais dans la région de Karaman Maras, la construction d'un nouveau camp avec une capacité de 30 000 places s'est heurtée à la résistance des villageois. Ils craignent pour leur sécurité et plus encore pour leur identité à Lévi, une minorité musulmane déjà victime d'un massacre en 1978, Anand Lauer s'est rendu dans le village de Sivridje Uyuk lorsque ce nouveau camp était en train de sortir de terre.
La pâture des vaches n'est déjà plus qu'une masse de terre, un plateau monotone que les engins de chantier achèvent d'aplanir. Si les délais sont respectés avant les récoltes d'automne, les 350 villageois de Sivridje Uyuk devront cohabiter avec 27 000 Syriens dans l'un des plus grands camps de réfugiés de Turquie. Mehmet Caner, le maire de ce village bâti dans la province de Karaman Maraş ou Maraş, fulmine sous ses airs débonnaires.
La situation dans la plaine va devenir très sensible. Nous n'aurons plus de sécurité. Personne ne peut nous garantir que Daesh ou Al-Nusra ne vont pas s'infiltrer parmi les réfugiés. Nous ne sommes que 3000 villageois dans la plaine, 5000 maximum, face à 27 000 Syriens. Qui pourra nous défendre?
Mehmet Caner s'inquiète en tant que maire et villageois, mais il s'inquiète surtout en tant qu'Alévi, une minorité aux croyances et coutumes très différentes de celles des réfugiés syriens. La Lévité rassemble des millions de personnes en Turquie qui font mentir le cliché d'un islam sunnite homogène. Syncrétiques, leurs pratiques empruntent au chiisme, sans s'y apparenter, quand d'autres rappellent davantage des cultes pré-islamiques, tels le chamanisme. À l'instar des yézidis d'Irak, les alévis et leurs rites, leurs prières souvent mixtes, dans des djamévis et non des mosquées, leur usage de la danse, de l'alcool et de la musique, sont vus comme hérétiques par le groupe État islamique. Mais la peur des villageois ne se limite pas à leur sécurité physique. Ils craignent pour l'avenir de leur communauté, de leur culture, leur mode de vie, pour la démographie de ces plaines ancestrales. L'avocat Seyit Sönmez a grandi ici.
L'été, dans ces villages, les gens se promènent en short, ils pratiquent le djem, le rituel alévi, ils célèbrent des mariages. Les relations entre les hommes et les femmes y sont très différentes de l'islam sunnite. 27 000 réfugiés, c'est énorme, et ce nombre ne fera qu'augmenter au fil des mois. Les quelques milliers d'alévis vont se retrouver en minorité. Ils risquent d'être assimilés et au final d'être forcés au départ.
Et puis il y a ce traumatisme que tous les alévis de Maraş évoquent, ces souvenirs douloureux que le chantier du camp a soudain réveillé. En décembre 1978, un massacre a visé les alévis de la ville et des militants de gauche. Le bilan officiel s'élève à 110 morts, officieusement plus de 150. Une partie de la population a prêté main forte aux hordes d'extrême droite, faisant du pogrom de Maraş le plus meurtrier et massif de l'histoire de la République. Hassan Hussein Değirmenci avait 24 ans à l'époque, il était jeune papa. Et il en tremble encore derrière sa moustache blanche.
Nos voisins, ces gens que je saluais tous les jours, ont mis à sac notre restaurant et ont tenté de nous tuer. Nous avons dû fuir, nous n'étions plus en sécurité. Mais les blessures ne se sont jamais refermées. À l'époque, l'État ne nous a pas protégés et c'est la même chose aujourd'hui. L'État ne tient pas compte de notre existence, il ne nous écoute pas. J'ai perdu le sommeil depuis que la construction du camp de réfugiés a commencé. Mais qu'on ne vienne pas dire que les alévis sont contre les réfugiés. Moi-même, j'ai été réfugié en Suisse pendant 30 ans.
Le massacre de Maraş a été perpétré avec l'aide d'éléments des services secrets sous le regard passif de policiers et de soldats. À l'époque, Hassan s'est enfui, comme 80% des alévis de la province. La plupart ne sont pas revenus. Seyit Sönmez, l'avocat, opine du chef. Derrière l'opposition au camp de réfugiés, l'enjeu n'est pas tant la méfiance des alévis vis-à-vis des sunnites ou des syriens.
Admettons un instant que tout cela n'est que paranoïa. Et alors, si votre enfant a peur de ce verre d'eau sur la table, n'allez-vous pas le retirer pour le rassurer? N'est-ce pas le rôle de l'État que d'entendre les inquiétudes de ses citoyens? Le problème ici n'est pas la peur d'une autre croyance. Le problème, c'est l'absence de confiance entre l'État et une partie de ses citoyens. Une méfiance liée aux blessures du passé, mais aussi à la façon de gouverner du pouvoir actuel.
La petite Djemévide de Sivridjeyuk, devenue quartier général des opposants au camp, fourmille de villageoises en pantalon bouffant et aux voiles fleuries cachant à peine leurs chevelures. Dans une pièce surchauffée par un poêle à charbon, Meryem, Zeynep et leurs amis ont décrété la résistance.
Pourquoi ? Pourquoi ici ? On ne sait pas. Est-ce qu'il n'y avait aucun autre endroit dans toute la Turquie ? Bien sûr que si. Alors pourquoi vouloir absolument installer ce camp dans notre plaine ?
Personne ne nous a consultés. Nous n'étions pas au courant. Je suis sous le choc. Je n'ai jamais protesté de ma vie, mais là, nous ne renoncerons pas. Nous ne partirons pas. Nous continuerons cette lutte.
Oula Chözdemir, ethnomusicologue, les observe en souriant.
Cet épisode sera peut-être l'occasion de faire émerger une société civile à Maras, qui est très en retard par rapport à d'autres provinces. Les gens du coin se rassemblent, ils expriment leurs opinions. C'est nouveau. Il permettra peut-être aussi à tous les habitants, et pas seulement les Alevis, d'affronter le massacre de 1978, qui reste un lourd tabou.
En disant cela, le jeune homme inclut évidemment les qui, à l'approche du 40e anniversaire du pogrom de Marrache, continue d'interdire toute commémoration.
C'est une de ces initiatives citoyennes qui ont 30 ans d'avance sur les politiques qui piétinent, alors que la question de la réunification de l'île de Chypre est toujours au point mort. Sur la zone tampon, en terrain neutre, des habitants chypriotes, grecs et turcs se réunissent pour chanter une chorale bicommunautaire tous les mercredis dans un ancien hôtel devenu baraquement des casques bleus. Alexis Rosenzweig est allé rencontrer ces chanteurs, militants à leur façon.
Dans la salle au fond du couloir à gauche, une fois un badge remis par le casque bleu de service, on entend d'abord le brouhaha des conversations en turc, en grec et en anglais. Lena Melanidou doit s'employer pour maintenir un semblant de discipline. Elle est la chef de chœur depuis la création de cette chorale bicommunautaire chypriote il y a 19 ans.
It's very difficult to handle these people.
C'est très difficile de gérer nos membres. Ils veulent bouger, se raconter leur vie. Chaque fois qu'ils se retrouvent, c'est comme s'ils se voyaient pour la première fois. Ils ne font que parler, parler, parler. C'est toujours le bazar, mais à la fin, quand nous sommes sur scène, tout le monde est ému.
L'émotion, même pendant la répétition, est palpable. Les voix s'élèvent dans cet ancien palace défraîchi, qui n'est plus un hôtel depuis le conflit armé de 1974 et où ont été échangés les prisonniers de guerre. Impossible, tant pour le visiteur de passage que pour un autochtone, de distinguer les choristes venus du nord de ceux venus du sud, de dire où sont les chypriotes turcs et où les chypriotes grecs. À la fin d'une de leurs chansons, se donnent les mains qu'ils tiennent au-dessus de leur tête comme un signe de victoire, même si la bataille n'est pas encore gagnée. Après bientôt 2 décennies d'existence, c'est déjà presque un exploit d'être encore là.
Au début, nous étions considérés comme des traîtres par quelques extrémistes. Mais notre image a changé. La chorale est devenue le symbole de la possibilité d'une réunification et d'une coexistence pacifique.
À 64 ans, Kostis, psychologue chypriote grec, se souvient des débuts, quand la frontière a été fermée et qu'ils ont dû pendant 5 années répéter dans le seul village bicommunautaire de l'île, dans la zone tampon à 50 kilomètres. Il se souvient aussi, avec amertume, du résultat négatif du référendum organisé dans le sud pour la réunification de l'île en 2004 et des conséquences sur cette chorale qu'il considère comme sa deuxième famille.
Beaucoup de chypriotes turcs ont quitté la chorale à ce moment-là, mais petit à petit, ils sont revenus. Maintenant, nous sommes 65 en tout et nous devons refuser du monde. Nous n'acceptons plus de femmes, nous en avons suffisamment, car nous avons besoin de basses. En fait, la chorale est très populaire maintenant.
Oh, Paul Éluard, déclamé en grec, avant d'être chanté en turc par tous les membres de cette chorale, qui est en tournée quasi permanente. Les concerts sont organisés dans les deux parties de l'île, mais aussi à l'étranger, en Turquie et en Grèce notamment. Ashkem, soprano quadragénaire et universitaire dans le civil, est chypriote turc et membre de la chorale depuis un peu plus de 2 ans.
Je ne sais pas si je peux décrire avec des mots ce que je ressens quand je chante ici. C'est un condensé de paix et d'amour entre nous. La première fois que je suis montée sur scène avec les autres, j'ai pleuré d'émotion. Et ma famille pleure quand elle vient me voir, à chaque fois.
Sur cette île divisée depuis plus de 40 ans par la fameuse ligne verte entre les deux communautés, adoucir les mœurs est une nécessité permanente et le climat ambiant, avec un nouveau tour de négociations entre dirigeants, est favorable aux échanges culturels. Mais une chose est sûre pour la chef de chœur, quoi qu'il arrive, Lena Melanidou ne veut pas laisser la politique avoir la moindre influence sur son groupe.
Qu'importe ce que font et disent les politiciens, la chorale est pour la paix et nous ne laisserons plus personne nous empêcher de chanter et nous déstabiliser. Nous parlons encore politique, mais nous gardons notre cap. Nous ne faisons qu'un. Si ça ne tenait qu'à nous, les civils, le problème serait déjà résolu.
En attendant une hypothétique solution au problème chypriote, tous les membres de la chorale, une fois la répétition terminée, devront sortir leur papier d'identité pour rentrer chez eux, à gauche pour le côté turc, à droite pour le côté grec.
La chronique des jeunes européens. Bonjour Avmino.
Bonjour Frédéric.
Les jeunes européens sont-ils tous des pirates? Il ne s'agit ni du parti politique allemand, ni du capitaine Crochet sans doute, mais plutôt de leur comportement vis-à-vis de la consommation des biens culturels via Internet.
Eh bien on en sait un peu plus grâce à une étude publiée ce mois-ci par l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Oui, ça existe. Elle s'intéresse cette étude au comportement sur le net des jeunes européens entre 16 et 24 ans et permet d'établir qu'un jeune sur 4 en Europe a utilisé l'année passée intentionnellement des sources illégales pour accéder à des contenus en ligne.
Et quel genre de contenu?
Alors des films bien sûr, mais pas seulement, surtout les séries télévisées, suivies ensuite par la musique et les jeux, qui sont aussi les biens culturels les plus téléchargés sur le net par les jeunes européens. Parmi les raisons invoquées, évidemment la facilité d'accès, la rapidité des téléchargements, qui rend généralement l'offre illégale supérieure à l'offre légale, et bien sûr le coût. Globalement, les jeunes d'ailleurs ne culpabilisent pas du tout de regarder des contenus obtenus illégalement, tant que c'est pour un usage personnel, même si 6 jeunes interrogés sur 10 affirment qu'ils cesseraient d'utiliser ces sources illégales pour accéder à du contenu légal si c'était plus abordable et plus disponible.
Et quels sont les pays les plus concernés?
Alors, il semblerait que dans ce domaine, les petits Français soient de véritables champions. 34% des jeunes Français ont déclaré qu'ils avaient intentionnellement utilisé ces sources illégales. Alors, étaient-ils particulièrement honnêtes en répondant aux questions du questionnaire ou seulement plus pirates que leurs camarades européens? On ne sait pas. En tout cas, parmi les pays étudiés, seuls les Pays-Bas surpassent ces résultats. Dans l'ordre après les Français, on retrouve les Espagnols, les Belges, les Autrichiens, les Italiens et enfin, à moins de 20% de petits pirates, le Royaume-Uni et l'Allemagne.
Et est-ce parce que les autorités nationales chargées de réguler la circulation des biens culturels sont plus efficaces ailleurs?
C'est possible. En tout cas, en France, la HADOPI, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, 6 ans cette année, a passé cette semaine les 7 millions d'avertissements quand même. Mais le système de réponse graduée qu'elle a mis en place peine encore à intimider les internautes, peut-être parce que l'on sait que les condamnations à payer des amendes sont encore très peu nombreuses, à peine une trentaine depuis sa création, depuis 2010.
Et ailleurs, en Europe?
Alors en Grande-Bretagne, après des années de mails d'avertissement pas très effectifs, la justice s'est saisie du dossier et oblige aujourd'hui les fournisseurs d'accès à bloquer certains sites de téléchargement, tout simplement. Quant à la Suède et l'Allemagne, deux pays européens qui incarnent à leur manière aujourd'hui un peu la culture pirate, ils ne sont pas en reste. L'une a longtemps hébergé The Pirate Bay, l'un des plus grands sites de téléchargement illégal au monde, et l'autre a vu croître il y a quelques années la popularité de son parti pirate. Pourtant, ces deux pays mènent une chasse effrénée aux jeunes pirates, chacun à leur manière. En Suède, les poursuites se concentrent autour des uploaders, ce sont ceux qui mettent à disposition des autres sur le net les biens culturels, tandis que l'Allemagne fait tomber une pluie d'amendes sur ceux qui téléchargent cette fois-ci sans passer par la case avertissement.
Et que risquent les contrevenants, Eve ?
En Allemagne, ça ne rigole pas. L'État a délégué les pouvoirs de police du net, en quelque sorte, à des sociétés privées. Et les amendes vont d'une centaine à un millier d'euros environ par fichier téléchargé. Ça fait cher la nouvelle saison de votre série préférée.
Et c'est Bruxelles, le monde appelle.
Bruxelles, capitale belge et capitale européenne, a dévoilé ce printemps sa nouvelle grande place qui, après 30 ans de travaux, montre enfin son nouveau visage sur place Lakshmi Lota.
Évidemment, chaque détail compte pour une place classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il fallait bien 30 ans pour redonner à la grande place son éclat d'antan. Dorure à foison, style gothique et baroque, l'architecture des façades remonte à la fin du XVIIe siècle. C'est une place pavée qui comprend plusieurs bâtiments, l'hôtel de ville et son beffroi reconnaissable et visible au loin dans presque toute la ville. Au sommet de la tour se trouve une statue dorée de Saint-Michel, le patron de Bruxelles, terrassant le dragon. On trouve aussi la maison du roi et les maisons des corporations, brasseurs, boulangers, ébénistes, archers, bateliers ou encore charpentiers. La maison du pigeon de la Corporation des peintres fut habitée par Victor Hugo en 1852 lors de son exil de France. Au Moyen-Âge, la Grand Place était une plaque tournante du commerce. Aujourd'hui encore, haut lieu touristique, elle a gardé ce rôle, représentant le luxe bruxellois avec ses enseignes de chocolatiers de renom, ses restaurants, ses bars, ses cafés. C'est aussi un lieu emblématique qui s'est vidé après les attentats du 22 mars dernier. Les touristes reviennent peu à peu. Ces 30 dernières années, il a fallu nettoyer les façades, réparer les pierres, refaire les joints, les dorures et les polychromies. D'abord, les grandes toiles en trompe-l'œil ont été soulevées pour laisser admirer le nouvel éclat des bâtiments. Ensuite, les échafaudages en fer ont été démontés petit à petit. La Grand Place se laisse désormais photographier intégralement. Cette mise en beauté est prévue pour durer une cinquantaine d'années.
Et c'est un tout autre projet qui anime Kiev, la capitale ukrainienne. Sur les murs gris des façades post-soviétiques, les artistes de rue se sont lancés dans de vastes fresques, souvent politiques, qui sont désormais sous la bonne garde des citoyens. À Kiev, Sébastien Gobert.
Ici, un cosaque géant qui combat un serpent dans le cosmos. Là, un homme perdu dans un labyrinthe tant et si bien qu'il en devient un labyrinthe lui-même. Là encore, un zoo d'animaux fantastiques aux couleurs éclatantes. Les façades de Kiev ne sont plus aussi ternes et mornes que leur triste héritage post-soviétique pourrait le laisser penser. Depuis quelques années, des jeunes artistes ukrainiens et étrangers s'emparent de ces espaces muraux gigantesques, pour beaucoup délabrés et inutilisés. Le mouvement s'est accéléré dans les deux dernières années après la révolution de la dignité de 2014. L'homme dans le labyrinthe de l'artiste russe Rustam Kubik est d'ores et déjà l'une des fresques murales les plus populaires au monde, selon le site streetartnews.net. Elle représente le questionnement qui habite tout un chacun à différents moments de notre vie. En mars dernier, un collectif d'artistes ukrainiens a créé le groupe Art United Us, qui ambitionne de peindre 200 murs à travers le monde, dans une série visant à promouvoir la paix sur la planète. Dans une capitale qui se cherche encore une identité, les artistes ukrainiens optent souvent pour la reproduction de portraits de personnages historiques, comme des écrivains, des artistes ou des personnalités politiques. Une promenade à travers les rues, les cours intérieures, les chantiers et les parcs de Kiev devient ainsi une leçon de culture et d'histoire. Même si les peintures murales montrent avant tout une des facettes de la créativité à l'ukrainienne d'aujourd'hui. Une peinture est aussi au cœur d'une controverse qui monte, le portrait de Sergueï Nagoyan, le premier révolutionnaire mort abattu sur les barricades en janvier 2014, domine une cour intérieure transformée en petit jardin par un collectif d'habitants. L'ensemble est menacé par des promoteurs immobiliers qui veulent se saisir de l'espace afin d'y construire un parking pour voitures. Les riverains font valoir que la peinture est désormais partie prenante du patrimoine artistique local. Les murs peints sont certes apparus récemment, mais ils sont là pour rester et égayer le regard des passants.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Besset. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr. RFI.